pour cette première journée, moi, ma mission pour vous, ça va être d'une part, dans une introduction, de vous montrer quel est le premier mot à prononcer contre le mal. Ça va être mon introduction. Simplement, oui, vous allez voir, c'est un mot très court de 2 lettres qui me semble absolument nécessaire pour pouvoir commencer à le traverser, ce mal, en y entrant déjà. Donc l'introduction, ça sera comment entrer dans le mystère du mal en prononçant un premier mot. Et puis à partir de ce premier mot, et ça sera vraiment toute la première partie, je vais faire toute une série de distinctions, donc entre par exemple le malheur, le mal que l'on subit, et la malice, le mal que l'on porte au monde, le mal que l'on fait. Entre aussi, ça peut paraître bête, mais entre le mal et le bien, je vais vous montrer comment ils s'articulent les deux là, et non pas comme on croit, donc dans une opposition frontale. Puis je vous montrerai aussi que l'on peut distinguer, comme je le fais d'ailleurs dans Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger, les différentes façons de porter au monde le mal, quand il s'agit de la malice, faire mal, mal faire, faire du mal et faire le mal. Ça, je passerai assez vite parce que si ça vous intéresse, c'est là-dedans. Et enfin, dans un dernier moment, mais je ne veux pas vous donner trop de distinctions d'un coup, on verra ce que les philosophes ont entendu en distinguant mal physique, la douleur, mal moral, le mensonge, le vol, le viol, que sais-je, et le mal métaphysique. Ça sera donc. Vous voyez, toute une série de distinctions, et dans mon but, c'est que finalement, quand on dit, vous savez, les mots ont un pouvoir un peu d'hypnose sur nous, ils nous tétanisent, on dit c'est le mal. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qui se cache derrière ce gros mot? Ce gros mot qui, une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'on n'a encore rien dit. Et moi, mon but, ce serait que, à la fin de cette journée, quand on dit c'est mal, quand il dit il m'a fait mal, quand on dit j'ai mal, c'est pas la même chose. Donc voilà, un travail très sage. Mais d'abord, donc, comment entrer dans le mystère du mal? Comment on y entre? Par un premier mot. Le premier mot pour le dire, et même le premier mot pour le contredire, et en même temps le contredire en le faisant sien, c'est-à-dire en entrant vraiment dans ce qu'il est. Ce premier mot, c'est 2 lettres, c'est le mot je, J-E. C'est le mot J-E, le mot je. C'est la première personne du singulier. Et ça va valoir aussi bien pour le malheur que pour la malice, c'est-à-dire le mal que j'ai et le mal que je fais. Le mot « je » me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que le mal me cerne, si vous voulez, et me concerne. Le mal me cerne et me concerne, et il est très important de savoir poser sa vie entre 2 aveux, l'aveu de souffrance, « j'ai mal », et l'aveu plus classique, l'aveu du mal que l'on fait, « et je fais du mal, et je fais du mal autour de moi ». Ces 2 aveux-là sont, à mon avis, une entrée nécessaire, une condition sans laquelle il n'est pas possible de parler du mal. Si vous voulez, le mal, si on en parle toujours à la 3e personne, on nous fait du mal, un peu comme les slogans que vous voyez sur les affiches, leur guerre, nos morts, leur profit, notre travail, etc. Bref, c'est toujours les autres. C'est, le mal, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça n'arrive pas non plus qu'à cause d'eux. Alors, on va dire ça, voilà. S'excuser, ça c'est pour le mal que l'on fait, s'excuser, ça veut dire se mettre hors de cause, ex causa en latin, s'excuser, c'est se mettre hors de cause, et la meilleure façon de s'excuser, c'est-à-dire de dire je ne suis pas la cause du mal que je mets dans ma vie, s'excuser, c'est la meilleure façon de s'excuser, ça peut être d'accuser, c'est-à-dire de dire la cause, ad causa, elle est là-bas. Voilà. Et en oubliant parfois que quand mon doigt pointe cet homme, il y a un doigt qui le pointe et il y en a 3, regardez, qui me regarde, qui me désigne. Ça va être avouer la part de mal que nous portons au monde. On va voir à quel point c'est libérateur. Mais avant d'en arriver là, dans le premier moment de mon introduction, donc le premier mot qui dit le mal, et pour à la fois entrer dans son mystère, mais autrement que comme une simple victime passive, etc. Ce premier mot, je, d'abord je vais décliner sur l'aveu de souffrance, et puis après l'aveu plus classique, l'aveu de malice, l'aveu du mal que je fais. Mais d'abord l'aveu de souffrance. Il me paraît en effet extrêmement important, dans le premier temps de cette introduction, de savoir dire « j'ai mal », de savoir dire « je n'en peux plus ». Vous voyez cet énoncé, « je n'en peux plus ». C'est très beau parce que c'est un « je » qui reprend à compte d'auteur le fait qu'il n'arrive pas à être un « je ». Je, en général, quand on dit « je », c'est « voilà, j'ai fait ceci, c'est moi qui l'ai fait, ce gâteau ». Quand on dit « je », on va annoncer une action. Quelque chose par quoi on transforme le monde extérieur. Moi aussi, je me suis fait le Brésil deux fois. Je me suis fait le Brésil, je ne sais pas si. Mais je. Or, dans l'aveu de souffrance, qu'est-ce qu'on dit ? C'est un je, et ça me paraît important de. C'est un je qui va dire à quel point il n'arrive pas à être un je dans sa vie. D'accord ? C'est un je qui. Va se prononcer, une première personne qui va aller se nicher au cœur même de la troisième personne du singulier. En général, quand on souffre, eh bien, on n'arrive plus à être un je. Hein, la souffrance fait qu'on subit sa vie. Voilà, on subit, donc c'est passif. Bon. Et finalement, dire « j'ai mal », dire « j'en ai marre », dire « je n'en peux plus », dire « je souffre », dire « je suis révolté », eh bien, c'est reprendre en première personne ce qui finalement m'impersonnalisait. Et l'aveu de souffrance, vous voyez, comme après l'aveu du mal que l'on fait, me paraissent être les deux portes d'entrée dans le mystère du mal. Ici, c'est le mal subi. C'est une histoire que je raconte dans La vie en bleu et que j'aime bien raconter parce qu'elle nous fait directement entrer dans le sujet. C'est une histoire que vous trouvez dans Deux petits pas sur le sable mouillé, d'Anne Dauphine Julian. Deux petits pas sur le sable mouillé, où elle raconte l'histoire de cet enfant, de sa deuxième fille, dont le pas sur le sable convergé vers l'autre pied. Alors, est-ce que c'est un petit défaut de marche qui va se corriger? Et en fait, ils apprennent, elle et son mari, qu'elle a une maladie orpheline extrêmement grave. Anne-Dauphine Julian qui vient de sortir un beau reportage, peut-être que vous avez des Mistral gagnants qui a l'air très fort, je ne l'ai pas encore vu. Et Anne-Dauphine Julian raconte ça dans Deux petits pas sur le sable mouillé, cette histoire de la perte progressive de cette petite fille de 3 ans qui s'appelle Thaïs, et en plus elle est enceinte à l'époque d'Asilis, et dont elle va apprendre qu'elle aussi est porteur de cette maladie orpheline extrêmement rare. Et donc ça va être la course contre la montre pour pouvoir prendre le problème de son enfant à naître à temps, et puis d'accompagner Thaïs à la mort, alors que la petite fille a 3 ans. Et au-dessus il y a Gaspard, le fils aîné. Et dans Deux petits pas sur le sable mouillé, on suit Gaspard, on suit la façon dont il aussi, lui aussi, vit cette course contre la montre pour sauver l'enfant qui finalement finit par naître, évidemment, et puis l'accompagnement vers la mort de la deuxième petite fille et de sa petite sœur. Et à un moment donné, il lui achète un cochon d'Inde et ils ont l'occasion de partir en vacances. C'est une occasion rêvée, ils s'en saisissent, ils arrivent à tout organiser. Et pendant qu'ils sont en vacances, eh bien, les voisins appellent ceux à qui on avait confié le cochon d'Inde de Gaspard, et ils disent « on est désolé, mais comme ça arrive avec ces petites bêtes, très fragile, un cœur qui bat très vite, bon, il est mort ». Et elle apprend ça, elle se dit « oh là là, il va perdre sa sœur dans quoi ? Dans 3 mois, 6 mois, même pas ?» Et là, c'est trop. Alors, lui, il arrive, c'était qui au téléphone ? C'était les voisins mais alors, comment il va ? Je ne sais plus comment il s'appelle, Poupouf, enfin, vous imaginez les noms qu'on donne à cette petite bête. Ça va. Ah oui, vraiment, ça va ? Oui, dit Gaspard. Ben, là, il est parti. Quoi ? Il s'est enfui ? J'étais sûr qu'il s'enfuirait. Il s'est enfui ? Oui, c'est ça, il s'est enfui. Puis, elle s'assoit, elle arrête de faire la vaisselle, vous voyez, elle essayait d'occulter la chose. Et Gaspard lui dit : quoi, maman, il est mort ? Et elle lui dit oui. Et Gaspard lui dit, mais tu sais maman, il faut que tu me dises les choses. Parce que si je ne suis pas triste, tu ne peux pas me consoler. Et vous voyez, l'aveu, L'aveu de souffrance, c'est pouvoir être triste pour pouvoir être consolé. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Si vous ne voulez pas pleurer, si vous ne voulez pas dire j'ai mal, si vous ne voulez pas décliner en première personne du singulier la blessure que vous fait actuellement la vie, eh bien vous ne pourrez même pas être consolé. Même pas être consolé. Aux larmes, citoyens. Aux larmes. Et ne pas avoir peur de ces larmes, ne pas avoir peur de dire là, je n'en peux plus. De le dire en première personne du singulier. Et en plus, le je n'en peux plus, c'est un vrai jeu parce que ça indique la limite de notre être. Dire je n'en peux plus, c'est dire il n'est pas possible pour moi de faire davantage, c'est-à-dire que vous revenez dans les dimensions qui sont celles de votre vie. Et en plus, vous remarquez que tout aveu de souffrance est fait à un autre. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on ait un jeu tout seul, on est un jeu grâce à un tu. Grâce à un tu. Et maman, si je ne suis pas triste, si parce que tu m'aimes, tu veux me protéger de la tristesse, le problème c'est qu'en faisant cela, tu me protégeras aussi de tes genoux sur lesquels je vais aller et sur lesquels je vais être consolé. Vous voyez, le grand contresens, c'est parce qu'on aime ce qu'on aime, on veut les protéger de tous les malheurs possibles. Mais ça n'est pas possible. Si on remet les choses à l'endroit, c'est plutôt parce que j'aime ce que j'aime, eh bien je les laisse à leur vie et je leur dis dans mon attitude que s'ils ont besoin, quand ils ont besoin d'être consolés, eh bien qu'ils n'aient pas peur de me dire que là, le bas de l'existence les blesse trop profondément. Il faut oser l'aveu de souffrance contre toute forme d'une sorte d'endurcissement, un cœur de pierre, d'endurcissement d'ailleurs que nous propose parfois la philosophie. Je pense à une très belle page de Léon Chestov dans, Athènes et Jérusalem. Dans Athènes et Jérusalem, alors Léon Chestov, C-H-E-S-T-O-V, c'est un auteur russe qui est mort en 1939, je crois, ou 1938. Léon Chestov, vous voyez, première moitié du XXe siècle, un existentialiste russe. Et Léon Chestov, dans Athènes et Jérusalem, oppose deux façons de se poser face au mystère, notamment du mal, soit Athènes, soit Jérusalem. Et la grande différence, c'est que Athènes tente de résorber le mystère du mal dans une science et une sagesse humaine, alors que Jérusalem, face au mystère du mal, dit « mais de toute façon, ça nous excède au sens de l'excès, et au sens de « ça nous rend fou ». Et la seule chose, hein, c'est le psaume, quoi, c'est « De profundis ad te clamavi, des profondeurs de l'abîme où je suis, je crie vers toi Seigneur, je crie ». Donc il faut oser crier. « Je crie vers toi ». Vous voyez, je crie aussi, c'est très beau dans les psaumes, parce que là encore, le cri, c'est une parole qui n'est pas une première personne, c'est une parole désarticulée. Vous voyez, un cri, au fond, c'est pas un sujet parlant qui crie, c'est un sujet qui ne sait plus parler, qui crie. Et qui crie parfois en silence. Bon. Mais dans « Je crie vers toi », de l'abîme, « Je crie vers toi, Seigneur », De Profundis, le psaume qu'on appelle De Profundis, dans le « Je crie », c'est cette désarticulation de mon existence, eh bien, j'en fais l'aveu. Je n'en peux plus. Et donc, fais quelque chose, Seigneur. Je me confie à toi. On ne devient un jeu que dans un tu, que face à un tu, que dans relation à un tu, qui nous permet, voilà, de ne pas crever, d'être dans le silence de l'inarticulation de notre existence. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est Jérusalem et Athènes, au contraire. Et dedans, dans Athènes et Jérusalem, Léon Chestov, il a une page très très forte à propos du stoïcisme. Vous voyez ce que c'est le stoïcisme? C'est vraiment, d'ailleurs, en français, ça donnait l'adjectif stoïque, c'est-à-dire celui qui accueille, en effet, bonne nouvelle comme mauvaise nouvelle, avec un sang-froid exemplaire. Et le stoïcisme, c'est une école philosophique de l'Antiquité grecque, qui a eu, c'est magnifique comme école, mais en effet, il y a une tendance comme ça à faire taire, je dirais, l'aveu de souffrance. Je vous donne un exemple. C'est Léon Chestov qui, dans le manuel d'Épictète, le débusque. Regardez le raisonnement du stoïcisme, du stoïcien, pour dire oui, que l'homme doit toujours, en toute chose, rester le plus sage possible. L'exemple qu'il donne, c'est celui d'un homme qui pleure la mort de son père. D'accord ? Il pleure la mort de son père. Et les larmes sont des aveux, même silencieux, des aveux de souffrance. C'est voilà. Quand on pleure, vous voyez, c'est très intéressant. La larme, c'est une souffrance intérieure qui s'extériorise. Donc, qu'on le veuille ou non, même si on ne permet pas à la vie de dire qu'on a mal, là, la vie le dit à notre place, quoi. C'est sur le visage, la seule partie de notre corps qui est vraiment à découvert. Enfin, voilà, la larme parle à notre place. Et Épictète dit, tu pleures, dans le manuel d'Épictète, tu pleures la mort de ton père. Bon. Tu remarqueras qu'il y a quelque temps, ton voisin aussi avait perdu son père. Or, tu n'avais pas pleuré la mort du père de ton voisin, car tu te disais qu'au fond, quand on a un certain âge, quand on... Eh bien, on meurt. Voilà. Et tu trouvais que c'était tout à fait naturel, logique, conséquent. Et donc, si tu n'as pas pleuré la mort de ton voisin, parce que tu trouvais ça logique, qu'à un moment donné, on cède la place, et que bon... Pourquoi donc pleures-tu la mort de ton père ? Donc, ravale tes larmes, réfléchis un peu, tout vivant... parce qu'il est vivant et mortel, donc ton père, puisqu'il est en plus d'une génération avant toi, même à la limite, sois heureux, tout est dans l'ordre des choses. Donc, tes larmes, sèche-les et garde ta contenance. Alors là, au sens propre du terme, ne déborde pas, garde ta contenance. Et Léon Chestov, il dit, c'est admirable comme raisonnement, vraiment, on ne peut qu'admirer. En effet, vous avez le même type de raisonnement plusieurs fois, il y en a un que je trouve admirable, c'est « Pourquoi t'énerves-tu à la piscine ?» quand tu es éclaboussé par un enfant. Et je trouve ça vraiment très juste. Il dit, voilà, qui dit piscine et qui dit père, dit qu'il est plus vieux que toi, forcément si c'est ton père. Et puis, s'il est plus vieux que toi, il paraît logique qu'il parte avant toi. Bon, c'est dans l'ordre des choses, donc pas besoin de déborder comme ça. Pour la piscine, il dit, mais voilà, cette fois-ci, tu es hors de toi, non pas par les larmes, mais par la colère, parce que tu étais éclaboussé par un enfant. Or, qu'est-ce que c'est qu'une piscine ? C'est un bain public. Qui dit bain dit eau, qui dit public dit autre. Eau plus autre, ça fait éclaboussure possible. Si tu ne veux pas être éclaboussé, tu vas soit prendre ton bain, d'accord, tout seul, soit dans un jardin public, par exemple. Là, ça serait étonnant d'être éclaboussé. Mais sinon, en allant à la piscine, sache qu'il y a les autres et il y a de l'eau. Donc, pourquoi sors-tu de toi ? Pourquoi te mets-tu en colère ? Vous voyez, ça marche bien. Et pourtant, avec la mort du père, oulala. Et Léon Chestov dit, le raisonnement d'Épictète est excellent. Mais on pourrait faire un raisonnement tout aussi excellent, qui consisterait à dire « Tu pleures la mort de ton père. Ton voisin a perdu son père, lui aussi, il y a quelque temps. Et tu n'avais pas pleuré. Or, pourquoi, alors que tu pleures la mort de ton père, et bien sûr, on ne peut que pleurer la mort de son père. La mort est un scandale, la mort n'a rien à faire avec la vie. Pourquoi n'as-tu pas pleuré la mort du père de ton voisin ?» Vous voyez, au fond, et Chestov, il dit, mais les deux raisonnements se tiennent. Soit celui qui dit, mais sèche tes larmes, ça ne va pas la tête, tu pleures pas celle de ton voisin, il y a les deux faits, parce que ça te paraissait logique, quand même, à cet âge-là, évidemment, bon, c'est dans l'ordre des choses, et l'ordre des choses devrait faire qu'on garde notre contenance. Mais l'inverse, le raisonnement opposé vaut tout aussi bien. Finalement, oui, tu pleures la mort de ton père, parce que c'est douloureux, parce que tu l'aimes, peut-être. Peut-être que même ces larmes mesurent la densité de l'amour que tu lui portais, parce que tu n'avais pas pleuré avec ton voisin. Tu n'étais pas venu le voir, tu n'étais pas venu partager sa peine, tu n'étais pas venu recueillir ses larmes sur ton épaule, mais honte à toi. Et donc, Chestov dit, mais pourquoi Épictète a choisi un raisonnement plutôt que l'autre ? Car Épictète, ce qu'il veut, c'est ce que les stoïciens, enfin la sagesse grecque, appellent l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, l'indifférence. En fait, si Épictète a choisi un raisonnement plutôt que l'autre, c'est qu'en fait, il y a quelque chose en lui qui est un peu morbide, c'est-à-dire il nous propose d'être mort avant avant même la mort. Il nous propose de devenir déjà des morts, des êtres insensibles à l'ataraxie, c'est ça, c'est l'indifférence. C'est le fait de s'être déjà, dès cette vie, détaché de la vie. Et donc il dit, mais en fait, c'est la mort qui te dicte, c'est pas la logique. Parce que la logique, elle vaut dans les deux sens. Vous voyez, les deux raisonnements se tiennent. C'est pas la mort, c'est pas la logique qui choisit en faveur du fait que tu ne dois pas pleurer. C'est qu'en fait, tu as déjà choisi la mort. Tu es déjà en train de mourir. Et il nous dit, Chestov, je préfère mille fois celui qui dit, mon père est mort. Eh bien, ça me désespère. Je crie vers toi, Seigneur, ressuscite-nous. Et ce cri-là lui semble bien plus proche du cœur battant de la vie, cette révolte contre la mort qui est celle du bébé qui s'accroche à la vie, de celle du bébé qui veut naître, de celle du... Voilà, de cette révolte de la vie contre la mort semble à Léon Chestov beaucoup plus sage que la sagesse des philosophes qui au nom de la raison, eh bien, nous apprennent à déjà mourir. Donc, dire « j'ai mal », dire « je n'en peux plus », dire « je ne veux pas » de cette mort qui défigure ma vie. C'est, à mon avis, la première chose à faire. Alors, évidemment, il y a un risque. L'aveu de souffrance est toujours risqué. Hein. Dire « j'ai mal », vous voyez, il y a le risque de se complaire, vous voyez, de se complaire de la complainte, de se complaire dans la complainte, de tomber dans la plainte. Vous voyez, c'est ce dont je parle aussi dans La vie en bleu. Dans La vie en bleu, je dis que s'il est très courageux, très très courageux, de dire qu'on a été victime de quelqu'un, de quelque chose, il est par contre très dangereux de devenir une victime. C'est-à-dire de faire de cet événement, j'ai été victime de quelqu'un, de quelque chose, de faire de cet événement une sorte de qualité de mon être, une sorte de statut. D'accord ? Voilà. Et vous savez qu'on est dans une société qui fonctionne par la reconnaissance, et c'est très bien, par la reconnaissance, voilà, chacun demande à être reconnu, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance à la victimisation, c'est-à-dire à dire « j'existe parce que je souffre, parce que j'ai été victime de toi, parce que tu es méchant, etc. » Une sorte de bagarre, vous savez, quand les enfants se bagarrent, quand les garçons se bagarrent, ils disent « même pas mal, tu m'as même pas fait mal bon, », alors qu'on a les larmes aux yeux, bon, même pas mal. Et là, on est dans quelque chose dans notre société qui est un peu l'inverse, et on dit « même mal, tu m'as fait mal, ah non, c'est toi qui m'as fait mal, ah non, en ayant ce propos-là, tu as blessé toute ma communauté, ah mais non, c'est toi qui l'as blessé en portant plainte. » Puis voilà, et au fond, on ne cesse pas de vouloir exister en tant que victime. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de dangereux, en effet, dans l'aveu de souffrance, si l'on se met à se complaire en lui. Et dans La vie en bleu, je parle de l'écoute, et je dis que l'écoute, c'est... En fait, que l'écoute doit toujours aussi avoir une oreille pour elle-même. C'est-à-dire, il est très important d'écouter l'autre. Parce que c'est en étant son « tu » qu'il va redevenir un « je ». Voilà, la personne qui tourne en boucle, eh bien, c'est peut-être parce que personne ne l'écoute vraiment. Et quand on dit « non, mais pas besoin de me raconter 5000 fois la même histoire, je t'écoute. » Alors, voilà, voilà, là vraiment je t'écoute, je te prête mon oreille. Donc, voilà, dis-moi. Et donc c'est très important pour devenir un « je » qu'il y ait un « tu » en face, qui fasse assez de vie dans lui pour accueillir la parole de l'autre. Mais cette écoute, pour pas que l'autre se complaise dans l'aveu de souffrance, cette écoute doit aussi écouter le moment où il est important d'arrêter d'écouter, de dire « bon, écoute, c'est vrai, oui, tu as souffert, mais t'es fait pour la vie, t'es... Quand Jésus guérit quelqu'un, il n'est pas là, oh, mon pauvre chou, t'as été aveugle pendant 30 ans, dire, y allez, maintenant, lève-toi et marche, dégage, aussi au sens de rayonne, va donner ton fruit ailleurs, quoi, c'est pas un gourou, reste dans mes jupes, on parlait de ça de l'an passé, du Dieu Père, qui n'est pas un Dieu doudou, un Dieu mère, reste dans mes jupes, mais qui envoie l'homme à la vie. L'aveu de souffrance, il y a quelque chose de risqué, il faut le savoir, on peut s'y complaire. Il y a une page intéressante de Wittgenstein, je vous écris le nom. C'est un grand philosophe du XXe siècle. C'est Ludwig, il est il était en terminale avec Adolf Hitler, rien que ça. Ludwig Wittgenstein, qui lui était d'origine juive d'ailleurs. Et Wittgenstein, dans ses investigations philosophiques, il a une page très très belle sur l'aveu de souffrance, en disant pourquoi, quand quelqu'un nous dit « j'ai mal », pourquoi, qu'on le veuille ou non, ça nous met mal à l'aise. Donc il faut le savoir, je vous nomme le risque pour... Et pourquoi nous, on est du coup très mal à l'aise de dire « j'ai mal ». Et en fait, il compare deux énoncés. « J'ai froid » et « j'ai mal ». Et il dit, évidemment, ces deux énoncés ne sont pas simplement descriptifs. Descriptifs, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui vous dit « j'ai froid », et « ah oui ». Ah, c'est comme « je t'aime », « ah oui, tu m'aimes ». C'est des énoncés qui ne sont pas simplement descriptifs, c'est-à-dire ils sont, John Austin dira, performatifs ou illocutoires, enfin peu importe, c'est-à-dire qu'ils demandent une réponse qui soit un acte. Un « j'ai froid », alors après il faut trouver l'acte qui convient, hein. Ça peut vouloir dire « ferme la fenêtre », ça peut vouloir dire « j'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras », ça peut même être une invitation érotique, vous voyez, « j'ai froid », bon, celui qui ne comprend rien... Voilà, la fille qui dit « Ah, j'ai froid, oh, c'est bizarre, ça fait 5 fois que tu me dis ça, j'ai mis le chauffage, je t'ai donné un pull, machin, oui, bon, bah, je vais te chercher un bonnet. Là, tu comprends pas que, je veux pas que tu m'habilles encore plus, mais qu'au contraire, bon, voilà, le gars qui comprend rien, et qui ne vient pas, et donc, on va dire que l'énoncé n'a pas réussi, bon, si le type, vraiment, décidément, ne comprend rien. Vous voyez, j'ai froid, je t'aime, et c'est « Ah, bah, super, ça me fait plaisir ». Non, « je t'aime », c'est « toi aussi, est-ce que tu veux passer ma vie, ta vie avec moi ?» Voilà, c'est énorme. Bon. Et donc, il compare « j'ai froid » et « j'ai mal ». Et il dit « j'ai froid », pourquoi c'est un énoncé qu'on ose ? C'est parce que ça fait référence à un élément extérieur sur lequel l'autre peut agir. Le « j'ai froid » peut être converti en un « il fait froid » possible. Et si le « il fait froid » n'est pas partagé, c'est pas grave. J'ai froid, c'est-à-dire, est-ce que tu trouves qu'il fait froid ? Et l'autre peut dire, ah mais oui, mais t'as raison, ça s'est rafraîchi, je vais mettre du chauffage. Ou, ah non, moi j'ai pas du tout froid, écoute, je te passe un pull. D'accord ? Le « j'ai froid » n'est pas un énoncé simplement descriptif, il demande une action de l'autre, une action qui peut agir sur un « il fait froid » possible, sur un monde partagé. Le « j'ai mal », nous dit Wittgenstein, ça ne marche pas comme ça. Parce que le « j'ai mal » ne peut pas être transformé en un « il fait mal » possible. Ou alors, s'il y a une demande du « j'ai mal » implicite, une demande d'un monde partagé autour de la douleur, hors de la douleur ou de la souffrance morale, or cette conversion du « j'ai mal » en un « il fait mal » est évidemment très problématique. Et... si vous voulez, je vais vous le dire comme ça, mais finalement, dans l'aveu de souffrance, soit on est dans le... vous voyez, dans « j'ai froid », bon, ah, c'est drôle, moi j'ai pas froid, mais bon, regardez, dans le « j'ai mal », ah ben moi je sens rien. Et c'est ce que disaient les tortionnaires. « J'ai mal, ah ben moi ça va. » D'accord ? Donc c'est soit l'indifférence, soit l'indifférenciation, la compassion folle. Soit l'indifférence, j'ai pas mal, je pense que ça fait 15 ans maintenant que maintenant on sait bien que la douleur n'est pas objective, qu'elle est subjective comme expérience, et qu'à l'hôpital, maintenant, quand vous êtes admis à l'hôpital, on vous demande votre degré de douleur. Et c'est vous qui le mesurez, quelle est entre 1 et 10 votre échelle de douleur. Et avant, ma mère, elle m'a raconté ça, une double fracture du poignet, et une infirmière qui lui dit non, ça fait pas si mal. Non, je vous assure, vous n'avez pas mal. Si, j'ai... Non, le poignet, ça fait pas si mal. Mais en fait, non, il y a des gens pour qui une double fracture du poignet, ça peut être horrible. Il y a des gens pour qui, en effet, oui, je me disais bien que j'avais une douleur depuis... Ah oui, mais c'était... Donc, au fond, vous voyez, la douleur, elle a lieu dans la subjectivité de l'individu. Et on peut pas dire, non, ce que tu as, ça ne fait pas mal. Ou ce que tu as, oui, ça fait vraiment mal. Je te promets, là, tu as mal. On ne peut pas savoir. Donc, au fond, la conversion d'un il fait mal n'est pas possible. Donc, soit l'autre peut dire, non, là, tu n'as pas mal, l'indifférence. Soit c'est l'indifférenciation. C'est qu'on accepte la conversion en un il fait mal. Et ça, c'est la compassion un peu morbide, l'indifférenciation. Je ne fais pas la différence entre toi et moi. c'est l'autre me dit, ah ben dans ma vie ça va pas, et ça vous angoisse parce que vous êtes là en train de vous dire, ah ben moi non plus, il faut pas que ça aille. Vous voyez, le jeu et le tu ont tendance à fusionner en un il fait mal, alors que, et je trouve que cette analyse est intéressante, il nous laisse là, Wittgenstein, mais sur ce pourquoi, qu'on le veuille ou non, avouer sa souffrance ou recevoir l'aveu de souffrance d'un autre, ça nous met mal à l'aise parce qu'on doit être entre deux pôles. Entre l'indifférence, ouais, bah, c'est sa vie, hein. Moi je m'en fous, c'est pas la mienne, et l'indifférenciation. S'il est mal, moi je dois être aussi mal que lui. Et en fait, il faut trouver la mesure. Il est mal, je dois partager sa peine, et pourtant c'est la sienne. Si vous avez l'occasion, allez voir, même vous le trouvez sur Internet, le paragraphe 338 du Gai Savoir de Nietzsche. Un paragraphe extraordinaire sur le Gai Savoir de Nietzsche. Vous avez écrit Nietzsche. C'est Paul Valéry qui disait Nietzsche, beaucoup de lettres pour pas grand-chose. Ça s'écrit comme ça. Friedrich de son petit nom. Nietzsche est... alors là, quand vous lirez ce paragraphe-là, si vous le lisez, donc dans le Gai Savoir, paragraphe 338, Nietzsche qui vraiment dit, mais voilà, est-ce qu'il est bon pour toi d'être compatissant? Est-ce qu'il est bon pour l'autre de l'être? Est-ce qu'il est bon pour... voilà, est-ce qu'il est bon d'abord pour l'autre que tu sois compatissant? Il disait, mais il y a des nuits de l'âme par lesquelles on doit passer. Et si on te les évite par compassion, eh bien tu ne connaîtras jamais tes matins. Et donc, un peu comme Anne de Finjulian avec son fils, il y a des choses, voilà, l'amour, ça n'est pas empêcher l'autre de passer par ses souffrances, c'est accompagner l'autre dans le passage par ses souffrances. Ça n'est pas de vouloir prendre sa douleur ou de couler avec lui, c'est de lui dire, mais oui, là si tu veux, vous voyez, on ne peut pas apprendre à nager à la place de son fils. T'inquiète pas, apprendre à nager, je le fais pour toi. Et je comprends, l'eau, ça fait peur, ça va être une épreuve trop difficile. Non, j'apprends à nager à ta place. J'apprends à aimer à ta place. Non, à un moment donné, il doit apprendre à nager, c'est-à-dire boire la tasse. Alors, et par contre, il faut être là s'il se noie. Mais par contre, il devra boire la tasse. D'accord, c'est comme ça, je ne connais pas un enfant qui n'ait pas bu la tasse en apprenant à nager. Et au fond, Nietzsche dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une religion du confort dans la compassion qui consiste à éviter à l'autre de souffrir pour ne pas avoir à souffrir soi-même et pour ne pas avoir à l'accompagner aussi loin. Aussi loin. Là, au fond, tous les grands mystiques ont leur nuit, tous les grands artistes ont leur angoisse de la page blanche, du bloc de marbre inentamé, etc. Mais ils doivent passer par là, forcément. Toute création est un enfantement, tout enfantement est douloureux. Si vous ne voulez pas de la douleur, si vous ne voulez pas que l'autre souffre, il n'y aura pas non plus d'enfantement. Et donc Nietzsche, voilà, la compassion, ce n'est pas forcément profitable. Et il a cette phrase, il dit « Malheur et bonheur sont comme deux frères jumeaux qui ou bien grandissent ensemble, ou bien demeurent petits ensemble. » Mais voilà, donc au fond, Yvon, est-ce que ça t'est profitable? Et récemment, j'avais donné comme ça à mes élèves la pitié. J'en avais vu la grandeur de la pitié, qui est quand même cette faculté de se mettre à la place de l'autre. Donc, une faculté extatique de sortie de soi, se tenir hors de soi pour rejoindre l'autre, c'est très beau. Mais au fond, pourquoi on le fait? On avait critiqué la pitié. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de beaux textes philosophiques qui critiquent la pitié. Et puis voilà, même le mot, tu me fais pitié, etc. Et puis finalement, on s'était dit ultimement, pour réconcilier les deux points de vue, que la pitié devait toujours avoir deux yeux. Un œil qui voit la souffrance de celui qui souffre, actuellement, là, voilà, voilà, mon fils, quand il fait du violon, qui dit « Ah, mais là, j'ai trop mal au doigt et tout. » Oui, en effet, on ne va pas aller jusqu'au sang. Voilà, en effet, bon, j'arrive à me mettre à sa place, il a mal, etc. Et en même temps, guérir cette pitié-là, voilà, parce que la réaction, ça pourrait être « Oh, mon beau chou, hein, je t'enlève du violon, ce professeur est trop méchant de te donner des exercices, et non, il est méchant, je vais t'acheter un synthétiseur avec des morceaux tout faits. » Non, là, c'est mauvais. Bon, donc, il faut quand même avoir l'exigence, et donc, il faut non pas avoir moins de pitié, tempérer cette pitié. Non, il faut avoir encore plus de pitié. Mais avoir pitié pour aussi la vocation qui est la sienne. Et avoir pitié pour l'enfant qui souffre en faisant son violon, donc ne pas lui demander des choses qui feraient que pour lui ça ne serait que mauvais souvenir, mais avoir aussi pitié de l'adulte qu'il doit devenir, de l'idéal d'humanité qu'il porte en lui, de l'idéal de pour mon fils, du Joseph grand, épanoui. Et donc, si je n'ai qu'une des deux pitiés, si je ne vois que l'adulte, eh bien j'écrase l'enfant sous l'adulte. Si je ne vois que l'enfant qui souffre, j'écrase l'adulte sous l'enfant. Voilà, je suis plein de compassion, plein de complaisance, etc. Et je l'empêche de grandir. Et donc, pour moi, la pitié, c'est pas... on nous guérit la pitié qu'en allant encore plus loin et toujours, mesurer ce qu'on peut exiger, comme de soi, hein, de soi aussi, on peut avoir pitié de soi, je n'en peux plus, et en même temps, aussi avoir en même temps de la compassion pour sa vocation. Voilà, je suis appelé à quelque chose de grand, ce serait dommage, en m'écoutant trop, de passer à côté. Voilà, et donc, pour ce qui est de l'aveu de souffrance, en effet, il est délicat, mais vraiment oser dire j'ai mal, oser dire je n'en peux plus. Et au fond, c'est ce jeu-là, par rapport à l'aveu de souffrance, il me paraît important parce qu'il n'est pas premier, ce jeu. Quand on dit j'ai mal, c'est souvent après un grand temps où notre vie finalement s'est éloignée de nous et un jour on se retrouve dévitalisé, on est comme surpris d'avoir été si loin dans la négation de soi. Et ce jeu, comme l'an passé, on avait fini là-dessus, je me souviens, vous avez dit l'an passé, dans notre vie, on arrive souvent en retard. Hein, on rate souvent le premier train de notre vie et on se dit, mais on n'arrive pas trop tard. Quand ce jeu arrive pour dire, je n'en peux plus, en un sens, il arrive en retard. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Et parce qu'avant, j'en pouvais encore. Vous voyez, il faut bien avoir passé une limite pour savoir qu'on l'a dépassée. C'est le paradoxe, c'est que tant qu'on se tient au bord de la frontière, c'est qu'on peut encore. Et puis à un moment donné, on va trop loin. Mais tu aurais dû le dire avant. Oui, mais avant, je ne savais pas que j'en pouvais encore plus, puisque j'en pouvais peut-être encore. Et maintenant, je n'en peux plus. Et maintenant, je te le dis, je suis en retard. J'ai été trop loin. Mais ce n'est peut-être pas trop tard. Parce que je crois que le jeu, et on va surtout voir ça, j'aimerais bien juste esquisser ça avec vous pour la fin de cette première session, pour ce qui est de l'aveu du mal qu'on fait. Ça arrive en retard, mais ça n'arrive pas trop tard. C'est une phrase de René Char que je cite dans le Petit Traité de la Joie qui dit « Tu ne peux pas te relire, mais tu peux signer. Tu ne peux pas te relire au sens où dans ta vie, eh bien, ce qui a été écrit, et tu ne peux pas relire pour apporter les corrections qui te plairaient. Le passé est passé. Et il s'est passé comme ça. Et mince, c'est trop tard alors. Non, on est forcément en retard sur les lieux de notre vie. Mais c'est pas trop tard. Parce qu'on peut signer. Et dire oui, cette vie qui m'a échappé pendant tant d'années, cette vie qui m'a échappé, eh bien c'est ma vie. C'est ma vie qui m'a échappé. C'est ma vie qui... Et quand on dit ça, c'est ma vie qui m'a échappé, vous voyez, on remet de la première personne là où on pensait qu'il n'y avait plus de première personne. Cette vie m'a échappé. Mais cette vie qui m'a échappé, c'est la mienne. Et donc, c'est la mienne, et donc, si vous voulez, finalement, peut-être que le pouvoir de l'être humain, il est un peu comme le pouvoir de Dieu sur sa création. Dieu crée le monde, et après, chaque jour, il bénit sa création. Vous voyez, la bénédiction vient après. Eh bien, nous, et c'est ce que j'appelle le consentement, le pouvoir du consentement, c'est de venir après pour faire que cette chose qui s'est faite sans moi devienne mienne. Et le petit traité de la joie, je le commence en disant « J'ai reçu la vie sans l'avoir demandé. » J'ai été, on a dramatisé ça un peu, Blaise Pascal, on a été jeté dans un canton de l'univers, etc. Heidegger, il parlera de l'être jeté, l'homme, ce qu'il a caractérisé. Caractérise l'homme, c'est la Gewerfenheit, c'est ce fait d'avoir été jeté au monde, etc. Oui, mais n'empêche que je peux reprendre ça à compte d'auteur. Cette vie que j'ai reçue sans l'avoir demandé, je peux lui dire oui, je peux même dire merci, et en faisant cela, j'accuse réception et elle devient mienne de plus en plus. Cette épreuve qui m'a mis dans un tunnel pendant 10 ans, oui, ça m'a mis dans un tunnel, mais finalement, cette épreuve, c'est la mienne. Ce tunnel, c'est une tranche de ma vie. Alors, ça n'arrive pas tout de suite, hein, c'est le pardon qu'on accorde à la vie et qui nous réaccorde à notre vie. Mais voilà, c'est au fond, pour le dire d'un mot, ma vie, elle a peut-être tous les défauts, sauf au moins un seul, c'est que c'est la mienne. C'est-à-dire que si je ne l'aime pas, qui le fera pour moi ? Et comme si ma vie, c'est-à-dire cette histoire bricolée avec des sinueuses, serpentueuses, abyssales, c'est comme si elle mendiait, comme un petit enfant, le fait qu'il fallait que je la regarde avec amour et bienveillance. Comme s'il fallait que je lui dise « Oh, c'était un sacré bazar, mais cette vie, c'est la mienne, c'est la mienne. » Et donc c'est signé, c'est ce que René Char appelle signé. Tu ne peux pas te relire, apporter les corrections qui t'agréeraient mieux, mais tu peux signer cette vie. Et faire qu'on peut... C'est intéressant, le « il était une fois » dans les contes pour enfants, parce que vous remarquerez qu'on ne peut dire « il était une fois » qu'au passé. On ne peut dire « il était une fois » hein, c'est pas « il est une fois » une princesse qui, machin, c'est « il était une fois ». C'est-à-dire que pour qu'il y ait une histoire, il faut que l'histoire se soit déjà déroulée. Il faut, pour dire « il était une fois », qui est la première, il faut qu'il y ait eu des milliers d'autres fois, et ultimement, quelqu'un qui dise « cette histoire, eh bien, ça fait, c'est mon histoire. Et donc, je peux la raconter, je peux l'offrir, je peux... » Vous voyez, le « il était une fois », c'est forcément à l'imparfait, et le « une fois », si vous voulez, le « une fois » fait signe vers toutes les autres fois qui se sont déroulées, et à la fin, voilà, au fond, peut-être qu'il nous est juste demandé ça, à la fin de notre vie, tous les chapitres de notre vie, même les feuilles, même ceux qui sont constitués de feuilles volantes, les rassembler, les relier, et dire « voici le livre de ma vie, je te l'offre, je le signe, je le reprends à compte d'auteur, avec les passages aussi, et peut-être avec les passages surtout, où ce n'était plus moi qui était le capitaine de mon bateau, où cette traversée du désert, tout ça, finalement, c'était ma vie. Et alors, et je voudrais ouvrir ça, et finir cette première prise de parole par l'aveu du mal qu'on fait. Parce que vous sentez bien que... Donc c'est le deuxième moment de mon introduction, donc d'abord l'aveu de souffrance et puis après l'aveu de malice, hein. Le mal que j'ai mais aussi le mal que je fais, là aussi le jeu J-E est décisif. Ce mal que j'ai fait, c'est en effet moi qui l'ai fait. Ça me paraît extrêmement important. J'aimerais bien analyser avec vous juste la structure du péché. La structure du péché, la structure du mal que l'on porte au monde, comment il fonctionne. Et alors un génie, c'est pas Freud le génie là-dedans, c'est Dostoïevski, notamment dans Crime et Châtiment. Si vous avez l'occasion aussi, alors là c'est paragraphe 338 de Nietzsche, c'est 2 pages, Crime et Châtiment c'est 1000 pages, je pense. Mais c'est vraiment extraordinaire. Alors je vous donne un peu le mécanisme que décrit Dostoïevski, et qui est vraiment très très bien vu, c'est que d'abord, donc c'est l'histoire de Raskolnikov, qui est un jeune russe paumé à Saint-Pétersbourg, la première adaptation en français au théâtre de Dostoïevski, vu que ça se passe en Russie, on avait imaginé un grand froid, moins 20 degrés, tout se passe dans une auberge, il fait très froid. Bon, en fait, tout se passe dans une touffeur, environnante, il fait extrêmement chaud, et Raskolnikov, dans une sorte de fièvre, donc il est paumé, il est pauvre, il a faim, il fait croire, il ment à sa mère et à sa sœur, enfin, il est mal, et il se dit qu'il va voler une vieille usurière, donc quelqu'un qui prête de l'argent contre gage, il va la tuer, et il va voler ce qu'elle a, l'argent qu'elle a, et puis finalement il est contraint de commettre un double meurtre, le meurtre de la vieille usurière plus le meurtre d'une innocente qui loge chez la vieille usurière qui s'appelle Lisaveta. Donc il commet un double meurtre, et ce qui est très très fort dans crime et châtiment, c'est que Raskolnikov, la conscience de Raskolnikov arrive vraiment toujours trop tard, ou en retard, puisque je vous ai dit que c'était pas trop tard, mais en tout cas en retard. C'est très très beau parce que vraiment, vous savez, quand vous le mal que vous commettez, eh bien, la question qu'à un moment donné vous posez à vous-même, c'est qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Le mystère du mal. Et qu'est-ce qui m'a pris ? C'est-à-dire l'aveu de possession. D'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a pris ? Et alors là, Dostoïevski est génial, c'est-à-dire que Raskolnikov, il erre. Il erre, mais dans son errance, il va vers le lieu de la vieille usurière. Et il a une idée qui pousse dans sa tête, mais il ne sait pas trop laquelle. Et à un moment donné, il s'arrête, il voit, il y a un atelier d'un ouvrier, la porte est ouverte, et là, il voit. Il voit le truc, il le prend, et il le fourre dans son froc. Et il sort, et personne n'a vu. Et du coup, il l'a. Il l'a quoi ? Il l'a la hache. Vous voyez, en fait, le mot vient après l'acte. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait. Il ne sait pas exactement tout ce qu'il fait quand il le fait. Et c'est ça, d'ailleurs, la structure du mal. Si l'homme qui est en train de tromper sa femme se disait « Ah bon, alors là, voilà, voilà, alors... » Voyez, si on lui présentait, on lui disait « Voilà, alors, aujourd'hui, voyage d'affaires, tu vas rencontrer Corinne, qui a 12 ans de moins que toi, et donc, tu vas coucher avec... Tes enfants vont te haïr pendant 22 ans, ta femme va voilà, tu vas tout pourrir, tu vas devenir deux fois plus pauvre, tu vas... Moi, super. D'accord, pourrir, m'en vouloir au moment de ma mort, mourir sans parler à ma fille aînée. Ouais, ok, je signe. Ça se passe jamais comme ça, vous êtes d'accord ? Ça se passe, il est là, Corinne, oh, elle m'offre la vie, un deuxième départ, que sais-je. On ne voit pas. Et à un moment donné... j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui étaient en soins palliatifs. Ils disaient, mais vraiment, dans les derniers moments, ce que les gens demandent, c'est que tous les liens qu'ils ont tissés leur soient redonnés et que ceux les liens qui sont désactivés eh bien soient réactivés avant qu'ils meurent. Et ce que les gens demandent, c'est pas, on peut être hédoniste, c'est-à-dire croire que le plaisir, c'est le plus important dans la vie. En général, les gens, avant de mourir, ils se disent pas. Oh, je vais mourir sans avoir goûté la dernière glace Haagen-Dazs. Non, ils disent pas ça. Ils disent à dire que je vais mourir sans. Non, ils disent j'ai pas parlé à ma fille depuis 25 ans. Je voudrais la revoir. Est-ce que vous pouvez enfin, c'est des demandes comme ça qui montent. Bon, et donc l'homme qui va tromper sa femme avec Corinne, il est pas en train de se dire non, mais il va se dire plus tard mais qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Ah, peut-être que si j'avais su, etc. Eh bien, Dostoïevski montre ça, que Raskolnikov est comme pris par le mal qu'il va commettre. Il ne sait pas tout ce qu'il fait au moment où il le fait. Il se dit qu'il va tuer la vieille usurière pour lui prendre ses trucs. Finalement, il tue deux personnes. Et finalement, tuer, ce n'était pas ce qu'il imaginait. Et puis finalement, et alors là, le mécanisme du mal est extraordinaire. Parce que, qu'est-ce qui m'a pris ? Ça veut dire que le mal nous assujettit. C'est-à-dire, il fait qu'on n'est plus des jeux JO. Il nous assujettit. On n'est plus un jeu. On devient une troisième personne. Qu'est-ce qui m'a pris ? D'accord ? Ici, le M apostrophe, qui est la première personne, elle est sous le joug du qu'est-ce que ? C'est-à-dire d'une troisième personne à personne. Troisième personne du singulier à personne. Qu'est-ce qui m'a pris ? On est assujetti par le mal. Mais le mal ne nous assujettit quand même pas complètement. Il nous laisse assez sujets pour constater notre propre anéantissement. C'est-à-dire que Raskolnikov, à la fois, remarque qu'il n'est plus maître de sa vie, et depuis qu'il a fait ce meurtre-là, il en est malade, il devient même, il est tout au bord de la folie, d'accord ? Il veut se suicider je ne sais pas combien de fois, et c'est Sonia, la prostituée, qui va le garder du suicide, puis qui va faire venir l'aveu, et qui va le libérer. Mais Raskolnikov, donc, à la fois est assujetti par le mal, mais quand même il demeure assez un jeu pour être le spectateur de son assujettissement. C'est d'ailleurs le processus même de la torture. Torturer quelqu'un, c'est le laisser toujours assez en vie et assez conscient pour qu'il puisse assister en spectateur à son propre anéantissement. Et le mal dans Crime et Châtiment opère exactement ça, exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il se dit, mais je ne suis plus le maître de ma vie, mais je le suis assez pour constater que je ne suis plus le maître de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, limite, s'il n'était plus du tout maître de sa vie, il serait fou. Et puis, il ne saurait même pas ce qui le prend. Mais il est encore assez maître pour que cette question, qu'est-ce qui m'a pris, l'obsède. Et ce qui est extraordinaire avec le mal, c'est que dans l'expérience du mal, on est nié, mais on n'a pas assez de force pour nier cette expérience jusqu'au bout. C'est-à-dire que soit devenir complètement fou, soit essayer d'oublier. Vous avez une page superbe de Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion, où Bergson dit, mais le criminel qui efface toutes les marques de son crime, il les efface pas tant pour ne pas être pris, évidemment pour ne pas être pris, mais aussi pour essayer d'effacer de sa conscience le crime qu'il vient de commettre. Pour revenir à un état antérieur au crime qu'il vient de commettre, pourquoi ? Eh bien parce que, et là Bergson parle de l'influence de la société sur nous, parce que nous on a fait un mal, que si on a bien maquillé le crime, que les autres ignorent qu'on a fait, et donc il s'adresse à nous comme il s'adressait à la personne qui n'avait pas encore commis le crime. Et donc, je vous cite les deux sources de la morale et de la religion de Bergson, on marque encore la même estime à l'homme qu'il était, à l'homme qu'il n'est plus. Ce n'est donc plus à lui que la société s'adresse, elle parle à un autre, lui qui sait ce qu'il est et ce qu'il a fait, il se sent plus isolé parmi les hommes qu'il ne le serait dans une île déserte. C'est-à-dire que ce qui est terrible avec le mal qu'on a commis, c'est-à-dire avec le mal aussi qu'on commet tout seul, et on va voir un film pornographique, on efface l'historique, tout est propre, au bon fond, voilà, c'est beaucoup moins risqué que de faire une orgie où il faut louer une salle, passer la serpillière et tout. Là, personne n'en saura rien. Et il y a quelqu'un qui nous croise, ah, ça me fait plaisir de te voir, là, quelqu'un comme toi. On dit non, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Et donc, vous voyez, le mal qu'on a commis nous sépare de nous-mêmes, nous assujettit, mais quand même pas assez pour qu'on soit complètement assujetti. On est là et on constate. On a assez conscience du mal qu'on a fait pour constater que le mal nous a assujettis. Et c'est en effet le propre de la conscience que de ne pas pouvoir faire qu'on cache ultimement le mal qu'on fait. D'accord ? C'est ce petit conte soufi qui raconte l'histoire c'est un maître soufi. Il a plusieurs disciples comme ça qui l'enseignent. Dans leur monastère, là, dans leur lieu où ils font les exercices et tout, et en fait, il y a de la rivalité parce que vraiment, il y en a un qu'il préfère. Il y a son chouchou, si vous voulez. Et le maître se demande comment faire pour qu'il n'y ait plus cette rivalité, le maître soufi. Et au matin, il dit, aujourd'hui, je vais vous donner un exercice tout simple à faire. Je vais vous donner à chacun un petit oiseau. Et vous allez aller le tuer dans un endroit où vous n'êtes vu de personne. Alors, les disciples se disent, ah oui, il y a un exercice simple pour nous revaloriser par rapport à... Bon, il y en a d'autres qui disent, non, ce n'est pas simple du tout cet exercice. Alors, il y en a, au sortir de la mosquée, ils tuent l'oiseau sous leur manteau, d'autres qui marchent dans le désert la moitié du jour, le tuent et puis reviennent, d'autres qui s'enfoncent dans un et creusent un trou, le tuent et puis ils ressortent du trou. Enfin, chacun a sa petite stratégie et le soir, avant le coucher du soleil, chacun montre qu'il a accompli l'exercice en montrant l'oiseau mort. Et le maître constate, félicite, et tout le monde sauf son bien-aimé, qui lui a toujours l'oiseau vivant. Le maître dit, mais notre religion, ça veut dire obéissance, soumission, et toi tu, les autres ricanent un peu. La consigne était pourtant facile. Il dit, oui, mais maître, j'ai bien cherché un endroit dont je n'étais vu de personne, mais Allah est partout. Et alors là, le maître dit, voyez, agissez comme lui au lieu de penser qu'il est mon préféré, ayez sa sagesse. Bon. Voilà, les autres sont encore plus jaloux. Allah est partout, pour nous, et même dans un plan, donc Dieu est partout, certes, mais même sur le simple plan de la conscience, il n'y a aucun endroit où je ne suis vu de personne, car je suis toujours à moi-même mon propre témoin. En fait, Raskolnikov, il est là, à un moment donné, il dit, mais ah, les gens dans la rue, j'ai l'impression qu'ils savent que c'est moi qui ai tué la vieille usurière Elisabetta. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mouche m'aurait vu. Vous voyez la folie qui me guette. Une mouche m'aurait vu. Il cherche qui aurait pu le voir. Et il oublie que celui qui a vu le crime, c'est lui. Et que il n'y a aucun acte dans ma vie qui est sans témoin, car je suis au moins à moi-même mon propre témoin. C'est le propre de la conscience. Et donc, vous voyez, le mal nous torture. À la fois on est assujetti, à la fois on sait qu'on l'est. On sait qu'on l'est, ça nous rend fou, et en effet, Raskolnikov va se dire, eh bien, il faut que je supprime ce dernier témoin, c'est-à-dire il faut que je me suicide. Et là, il y a Sonia qui intervient, Sonia qui va le pousser à l'aveu. C'est là où je voulais en venir, à dire ce mal, c'est moi qui l'ai fait. Ce mal, c'est moi qui l'ai fait, et si vous voulez, quand vous voyez la structure du péché, qu'est-ce qui m'a pris? C'est-à-dire que quand on fait le mal, on n'est plus en possession de ses moyens. C'est, je vous dis, c'est... En fait, oui, c'est une structure d'assujettissement, le mal. C'est le ça qui fait le mal en nous. Et le diable se réjouit de nous voir soumis à nos pulsions, à tout ce qui n'est à la société, à la pression sociale. Dans « Ainsi fragile vernis d'humanité » de Tereschenko, il raconte l'histoire de Franz Stengel, celui qui était chef du camp de Treblinka et qui était un Autrichien, donc anti-allemand. Il était contre l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, donc anti-hitlérien. Il était policier autrichien, pas du tout antisémite, etc., etc. Et pourtant, il s'est retrouvé, il était des plus grands criminels de guerre nazie. Et quand est-ce qu'il a basculé? Eh bien, par peur, par une série de lâchetés, d'inconsistances. C'est pas le jeu qui parle. Il dit que les SS demandaient, pour rentrer dans la SS, dans une section assez élevée, il fallait demander un formulaire de débaptisation et le remplir. Donc il a menti à sa femme. Il n'a pas dit à sa femme, qui était très catholique, qu'il se faisait débaptiser. Et il raconte qu'à partir de ce moment-là, mentant à sa femme, qui était un peu vêtu, qui lui permettait d'être un jeu, eh bien, il était entré dans un mécanisme où toute sa vie lui a échappé. Et c'est très très beau. Et d'ailleurs, Gita Sereni, qui est la journaliste américaine qui l'a interrogé en prison pendant 2 ans, elle dit le jour où il a dit « Ah mais quand même, en effet, j'aurais pu faire autre chose, parce que sinon il se trouvait toujours des excuses. » Le soir où il a dit ça, mais il est mort dans la nuit. Le jeu, enfin voilà, et sinon il est mort, il a passé ses dernières années de sa vie en prison. Et, bon. Mais vous voyez, juste, je vais finir là-dessus. Regardez. Qu'est-ce qui m'a pris? Négation. Négation du sujet. Je ne suis plus le sujet de ma vie. Et en plus, je nie en vain. J'essaye de me trouver des excuses, j'essaye d'accuser les autres, j'essaye d'effacer toutes les traces de mon crime, mais ça n'opère pas. C'est-à-dire, j'assiste à mon assujettissement, et du coup, c'est la mort comme seul horizon, la suppression totale du témoin que je suis de mon propre assujettissement. Et qu'est-ce que c'est que le retour vers le bien? Le retour vers le Père, eh bien, c'est tout l'inverse. C'est dire, ce mal qui en effet m'a possédé, cette troisième personne du singulier, eh bien, je la fais taire et je dis, ce mal, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ceci, mea culpa, mea maxima culpa, c'est ma faute. Et parce que je l'ai fait, ce mal, eh bien, je vole à Satan la vedette, si vous voulez. Lui, il est très content qu'on se trouve des excuses, il est très content qu'on accuse les autres, et c'est son job, c'est qu'on ne soit jamais en première personne du singulier. Et au contraire, on dit, parce qu'on pourrait dire, mais non, mais en effet, Raskolnikov, alors Dostoïevski était très très sévère avec la sociologie, la psychologie, les sciences humaines naissantes, il disait, non, c'est vraiment lui qui a fait ce mal. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la scène de l'aveu à Sonia, il se trouve, il dit, tu sais, c'est moi qui tue la vieille usurière Elisabetta. Elle lui dit, mais pourquoi? Mais j'étais pauvre et j'avais faim. Et elle fait simplement le nom de la tête. Il dit, mais ma mère, et elle fait le nom de la tête. D'accord? Alors qu'en fait, c'est des causes vraiment atténuantes. Mais vous voyez, les circonstances atténuantes atténuent la liberté. Elle ne la supprime pas. Et donc, elle fait le nom de la tête. Il dit à un moment donné, mais j'avais chaud, puis j'avais bu. Et puis, il faisait trop chaud, c'était la canicule. Alors, il trouve toutes les causes météorologiques, climatiques, etc. Et puis à un moment donné, il dit, eh bien, c'est Satan qui m'a piégé, je me suis bien fait avoir. Et non, c'est elle qui dit, ah ouais, ben, tu t'es bien fait avoir. Et là, il dit, ben, je vais aller le dire à la police. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a une force d'assujettissement, et en allant à la police, il dit, c'est moi qui. Et là, Satan enrage, parce qu'en fait, on reprend en première personne. On reprend la première personne qui nous avait volé. Mais à coup de part, on pourrait dire, ah, mais les catholiques, c'est horrible, ils disent ma faute, ma faute, ma faute, et tout. Mais c'est la liberté. Ça, c'est la liberté de pouvoir dire. Sinon, en effet, c'est la faute de la société, de sa maman, du climat. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. On est bien causé par des milliers de choses. Et j'ai envie de dire, même au fond, Raskolnikov, il est presque, en effet, purement causé, il est presque excusé. Mais justement, le jeu qui dit, oui, il y a eu tout ça, mais je suis encore là. Et je signe, c'est peut-être la société qui, mais ça atténue mon jeu, ça ne le détruit pas. Eh bien, cette résurgence du jeu, cette confession, fait que, et c'est pour ça que je vous ai dit, le premier mot qu'on doit dire à propos du mal pour le contredire, c'est je. Ce mal, c'est moi qui l'ai fait. Hein, ce gâteau, c'est moi qui l'ai fait quand on est très fier. Eh bien, ce mal aussi, mais à coup de pas. Cette histoire, j'ai déjà raconté ici, alors ceux qui l'ont entendu, je m'en excuse, mais c'est... C'était il y a 2 ans maintenant, quand ma petite fille Claire, que vous voyez parfois voilà, cheminer ici et là au procès, il y a 2 ans dans le stade du moi, voilà, dans l'appropriation de sa vie. Voilà, et évidemment, c'est très pénible et c'est très beau en même temps, mais c'est mon papa, c'est ma maman. Alors les autres, ils disaient, non, c'est notre papa, non, c'est mon papa, etc. C'est ma chambre, c'est ma fourchette, etc. Dans l'appropriation de sa vie. Et on laisse faire, parce que quelqu'un qui ne possède pas sa vie ne peut pas la donner, donc c'est très important. On ne peut pas commencer par le communisme, si vous voulez. Il faut vraiment prendre possession de sa vie, ne serait-ce que pour pouvoir ensuite la donner. Donc on laissait faire, et puis surtout qu'il y a eu un moment très rigolo, c'était que Joseph et Léonore se sont disputés, et puis moi je suis arrivé, dire mais ça va pas, ils se frappaient comme des dingos, bon. et puis alors, vous connaissez le truc, mais c'est pas moi qui ai commencé, non c'est lui qui a commencé, etc. C'est pas vraiment, on s'accuse, et en accusant on s'excuse, et c'est pas ma faute, et Claire elle entend cette dispute, elle dit ils sont en train de se disputer un truc, faute je sais pas trop ce que c'est, et elle arrive... Elle avait rien à voir avec la dispute, elle dit « Non, non, c'est ma faute !» en disant « Je ne sais pas où elle est, mais c'est la mienne. C'est ma faute. » Et je me suis dit « Mea culpa, vous voyez, c'est ma faute. » Et je me suis dit, vous voyez, c'est très important dans ce processus d'appropriation de sa vie, de pouvoir dire « C'est ma faute. » À celui qui, malheureusement, se trouve toujours des bonnes excuses, eh bien, on ne peut que dire que sa vie est causée par autre chose que lui-même. Et donc, l'aveu du mal qu'on porte au monde me paraît très très important. Je vais m'arrêter là, mais je recommencerai cet après-midi en disant, je vous laisse juste avec cette petite histoire qui a été une des impulsions d'ailleurs de ce livre-là. Dans Citadelle d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vous lis ce passage et je vous laisse avec ce passage pour méditer. Me plaît le père qui, son fils ayant péché, s'en attribue à soi le déshonneur, s'installe dans le deuil et fait pénitence, car son fils est de lui. Si tu l'aimes, celle de ta maison qui est ta femme et qu'elle pêche, tu n'iras point te mêler à la foule pour la juger, car elle est de toi, et tu te jugeras d'abord car tu es responsable d'elle. Car certes, te viendront des témoins étrangers devant lesquels tu auras à rougir, et pour te purger de la honte, tu te désolidariseras de ses fautes. Mais il te faut bien quelque chose de quoi te faire solidaire. De ceux qui ont craché sur ta maison, ils avaient raison, diras-tu. Peut-être, mais je te veux de ta maison. Tu t'écarteras de ceux qui crachaient. Tu n'as pas à cracher toi-même. Et on a toujours raison d'accuser les autres. On a toujours raison de s'indigner de l'inhumanité des autres. Mais quand on a toujours raison, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on n'ait plus de maison. Et donc le péché qui court dans l'humanité, comme Satan se promène dans les livres de Job, ce péché, le faire sien, dire c'est mon affaire, c'est le mien aussi, ça nous permet de cesser d'avoir raison contre les autres, d'avoir raison des autres, pour intégrer la maison commune d'une humanité blessée. Ce fils qui a péché, je peux cracher sur la maison où il est, avec ceux qui crachent pour avoir raison, mais je n'aurai plus de maison. Donc il faut que je rentre et dire, oui, c'est une l'histoire douloureuse de cette humanité pécheresse, et eh bien c'est aussi mon